Chapitre 2. Vacances. Le samedi 23 juin 2018, à l'aube, je mis ma valise dans le coffre de ma voiture et je pris la route de Verbier. Le soleil émergeait au-dessus de l'horizon, baignant les rues désertes du centre-ville de Genève d'un puissant halo orangé. Je traversai le pont du Mont-Blanc avant de longer les quais fleuris jusqu'au quartier des Nations Unies, puis je rejoignis l'autoroute en direction du Valais. Tout en ce matin d'été m'émerveillait. Les couleurs du ciel me semblaient nouvelles, les paysages qui défilaient de part et d'autre de la route me paraissaient plus bucoliques encore qu'à l'accoutumée. Les petits villages éparpillés au milieu des vignobles et surplombant le lac Léman composaient un décor de cartes postales. Je quittai l'autoroute à Martigny et poursuivis la petite route enlacée qui, après le Châble, monte en serpentant jusqu'à Verbier. Après 1h30 de trajet, j'arrivai à destination. La matinée commençait à peine. Je remontai la rue principale et traversai le village, puis je n'ai plus qu'à suivre les panneaux indicateurs pour trouver mon chemin jusqu'au palace. L'hôtel se situait à proximité directe du village, quelques minutes à pied, mais tout en étant suffisamment à l'écart pour qu'on se sente dans un lieu unique. Le bâtiment, un palace de montagne typique avec ses tourelles et son grand toit, était niché dans un petit écrin de verdure, entouré par la forêt de pins comme d'une muraille, et dominant la vallée du Rhône, sur laquelle il avait une vue spectaculaire. Je fus accueilli au palace par un personnel charmant et aux petits soins. Je me sentis immédiatement bien en ces lieux, empreint de sérénité. Alors que je m'enregistrais à la réception, l'employé me dit « Vous êtes l'écrivain, c'est cela ?»« Oui. » »« C'est un grand honneur de vous avoir ici. J'ai lu tous vos livres. Vous venez ici pour écrire votre nouveau roman ?»« Surtout pas, » lui répondis-je en riant. « Je suis venu pour me reposer. Vacances, vacances, vacances. Je pense que vous serez bien ici. Vous êtes dans l'une de nos plus belles suites, la 623. » Un groom m'escorta avec mes bagages jusqu'au 6e étage. En longeant le couloir, je regardais défiler les numéros des chambres. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater que l'ordre était le suivant. 620, 621, 621 bis, 623. C'est étrange, fis-je remarquer au groom. Il n'y a pas de chambre 622. Non, me répondit-il, sans me donner plus d'explications. La chambre 623 était absolument magnifique. Dans un style moderne, qui contrastait parfaitement avec l'ambiance du palace. Il y avait une partie jour, avec un grand canapé, une cheminée, un bureau avec vue sur la vallée et un grand balcon. Dans la partie nuit, un très grand lit et un dressing qui donnait sur une salle de bain en marbre, dotée d'une douche à l'italienne et d'une immense baignoire. Après avoir fait le tour des lieux, je revins à cette histoire du numéro de chambre qui me tracassait. « Mais pourquoi 621 bis et pas 622 ?» demandai-je à l'employé qui installait mes bagages. « Sans doute une erreur, » répondit-il d'un air vague. Je n'arrivais pas à dire s'il était vraiment dans l'ignorance ou s'il mentait par omission. Il semblait n'avoir en tous les cas aucune envie de prolonger la conversation. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre, monsieur? Souhaitez-vous que j'envoie quelqu'un défaire votre valise ?»« Non, merci beaucoup. Je le ferai moi-même. » Le remerciai-je en lui glissant un pourboire. Il disparut prestement. Poussé par la curiosité, j'allais inspecter le couloir. En dehors de celle qui jouxtait la mienne, il n'y avait aucune autre chambre bis sur tout l'étage. C'était très étrange. Mais je m'efforçais de ne pas y penser. J'étais en vacances après tout. Ma première journée de vacances à Verbier fut consacrée à une promenade dans la forêt jusqu'à un restaurant d'altitude où je déjeunais en contemplant le panorama. De retour à l'hôtel, je profitai de la piscine thermale, puis je m'accordai un long moment de lecture. Le soir venu, avant d'aller dîner au restaurant du palace, j'allais boire un scotch au bar. Installé au comptoir, je devisais avec le barman qui ne tarissait pas d'anecdotes savoureuses sur les autres clients présents. C'est là que je la vis pour la toute première fois. Une femme de mon âge, très belle, visiblement seule, et qui s'installa à l'autre bout du zinc où elle commanda un martini dry. « Qui est-ce ? » demandai-je au barman après qu'il l'eût servi. Scarlett, Leonas. Une cliente de l'hôtel, elle est arrivée hier. Elle vient de Londres. Très gentille. Son père est un aristocrate anglais, Lord Leonas, vous connaissez ? Elle parle un français parfait, on sent le niveau d'éducation. Apparemment, elle a quitté son mari pour venir se réfugier ici. Au cours des heures suivantes, j'allais la recroiser deux fois. D'abord au restaurant de l'hôtel où nous dînâmes à quelques tables l'un de l'autre. Puis de façon totalement inopinée, aux alentours de minuit, lorsque, sortant sur le balcon de ma suite pour fumer, je découvris qu'elle occupait la chambre voisine. Je me crus d'abord seul dans la nuit bleutée. J'avais emporté de Genève une photo de Bernard et je la tenais en main. Appuyé contre la balustrade, j'allumai ma cigarette et contemplai le cliché, mélancolique. Une voix m'arracha soudain à ma contemplation. « Bonsoir, » entendis-je. Je sursautai. C'était elle, sur le balcon contigu au mien, discrètement lovée dans un fauteuil d'été. « Pardonnez-moi, je vous ai fait peur, » me dit-elle. « Je ne m'attendais pas à trouver de la compagnie à une heure pareille, » lui répondis-je. Elle se présenta. « Je m'appelle Scarlett. »« Je m'appelle Joël. »« Je sais qui vous êtes. Vous êtes l'écrivain. Tout le monde parle de vous ici. » « Ce n'est jamais bon signe, » lui fis-je remarquer. Elle me sourit. J'eus envie de prolonger ce moment et lui proposer une cigarette. Elle accepta. Je lui tendis le paquet et lui allumai mon briquet. « Qu'est-ce qui vous amène ici, l'écrivain ?» me dit-elle après avoir expiré une première bouffée. « Besoin de prendre l'air, » répondis-je de façon évasive. « Et vous ?»« Besoin de prendre l'air aussi. J'ai quitté ma vie à Londres, mon boulot, mon mari. » J'ai besoin de changement. Qui est sur la photo? Mon éditeur, Bernard de Fallois. Il est décédé il y a 6 mois. C'était quelqu'un de très important pour moi. Je suis désolé. Merci. Je me rends compte que j'ai du mal à tourner la page. C'est fâcheux pour un écrivain. Je forçai un sourire, mais elle perçut la tristesse sur mon visage. Pardonnez-moi, s'excusa-t-elle. J'ai voulu être drôle. C'était raté. « Ne vous en faites pas. Bernard est décédé à l'âge de 91 ans. Il avait tous les droits de s'en aller. Il va falloir que je m'y fasse. » Le chagrin ne connaît aucune règle. Elle avait raison. « Bernard était un grand éditeur, » dis-je. « Mais il était aussi beaucoup plus que ça. Il était un grand homme, doté de toutes les supériorités qu'il avait eues au cours de sa carrière dans l'édition Plusieurs Vies. À la fois homme de lettres et grand érudit, il était également un redoutable homme d'affaires, doté d'un charisme et d'un talent de conviction hors du commun. Il eût été avocat, tout le barreau parisien était au chômage. Il y avait eu une époque pendant laquelle Bernard avait été le patron, craint et respecté, des plus importants groupes d'édition français, tout en étant proche de grands philosophes et d'intellectuels du moment, ainsi que d'hommes politiques au pouvoir. Dans la dernière partie de sa vie, après avoir régné sur Paris, Bernard s'était mis en retrait sans perdre une once de son aura. Il avait créé une petite maison d'édition à son image, modeste, discrète, prestigieuse. C'était le Bernard que j'avais connu, moi, lorsqu'il m'avait pris sous son aile. Génial, curieux, joyeux et solaire. Il était le maître dont j'avais toujours rêvé. Sa conversation était scintillante, spirituelle, allègre et profonde. Son rire était une leçon permanente de sagesse. Il connaissait tous les ressorts de la comédie humaine. Il était une inspiration pour la vie. Une étoile dans la nuit. Bernard semblait hors du commun, me dit Scarlett. Il l'était, lui assurai-je. Écrivain, c'est quand même un métier fascinant. C'est ce que pensait ma dernière petite copine avant de se mettre en couple avec moi. Scarlett éclata de rire. Je le pensais vraiment, me dit-elle. Je veux dire, tout le monde rêve d'écrire un roman. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, moi, si. Alors lancez-vous. Lui suggérai-je. Il vous suffit d'un crayon et d'un bloc de papier, et c'est un monde merveilleux qui s'ouvre à vous. Je ne saurais pas comment m'y prendre. Je ne saurais pas comment trouver l'idée du roman. Ma cigarette était terminée. Je m'apprêtais à retourner dans ma chambre lorsqu'elle me retint, ce qui ne fut pas pour me déplaire. « Comment trouvez-vous l'idée de vos romans ?» me demanda-t-elle. Je pris un instant de réflexion avant de répondre. Les gens considèrent souvent que l'écriture d'un roman commence par une idée. Alors qu'un roman commence avant tout par une envie, celle d'écrire. Une envie qui vous prend et que rien ne peut empêcher. Une envie qui vous détourne de tout. Ce désir perpétuel d'écrire, j'appelle ça la maladie des écrivains. Vous pouvez avoir la meilleure des intrigues de roman, Si vous n'avez pas envie de l'écrire, vous n'en ferez rien. Et comment est-ce qu'on crée une intrigue ? Me demanda Scarlett. Très bonne question, Dr. Watson. C'est une erreur que les écrivains qui débutent commettent souvent. Ils considèrent qu'une intrigue est constituée de faits assemblés les uns aux autres. On imagine un personnage, on le plonge dans une situation, et ainsi de suite. Effectivement, avoua Scarlett. J'avais d'ailleurs l'idée de roman suivante. Une jeune femme qui se marie et qui, le soir de sa nuit de noces, tue son époux dans leur chambre d'hôtel. Mais je ne suis jamais arrivé à développer. Parce que vous assemblez des faits, comme je viens de vous le dire. Or, une intrigue, comme son nom l'indique, doit être constituée de questions. Commencez par poser votre trame de façon interrogative. Pourquoi une jeune mariée tue-t-elle son mari le soir de leur noces ? Qui est cette jeune mariée ? Qui est son mari ? Quelle est l'histoire de leur couple ? Pourquoi se sont-ils mariés ? Où se sont-ils mariés ? Scarlett répondit du tac au tac. Le mari était immensément riche, mais d'une radinerie sordide. Elle voulait un mariage de princesse avec signes blancs et feux d'artifice, et au final, elle a eu une fête au rabais dans une auberge miteuse. Folle de rage, elle a fini par assassiner son mari. Si à son procès le juge est une femme, elle aura des circonstances atténuantes parce qu'il n'y a rien de pire qu'un mari radin. J'éclatai de rire. « Vous voyez, lui dis-je, le seul fait de tourner votre trame initiale sous forme de questions offre un lot infini de possibilités. En répondant à ces questions, les personnages, les lieux et les actions vous apparaîtront d'eux-mêmes. Vous avez vous-même dessiné quelques contours des personnages du mari et de la femme. Vous avez même poursuivi l'intrigue en pensant au procès. Est-ce que l'enjeu est le meurtre ? Ou alors le procès de la femme ? Sera-t-elle acquittée ? La magie du roman, c'est qu'un simple fait, n'importe lequel, traduit sous forme de question, ouvre la porte à un roman. N'importe quel état de fait ? Répéta Scarlett d'un ton un peu incrédule, comme si elle me lançait un défi. N'importe lequel. Prenons un exemple très concret. Si je ne me trompe pas, vous êtes dans la chambre 621 bis, c'est exact. Absolument, confirma Scarlett. Et moi, je suis dans la chambre 623. Et la chambre avant la vôtre est la 621. J'ai parcouru tous les étages pour vérifier. La chambre 622 n'existe pas. C'est un fait. Pourquoi y a-t-il, au palace de Verbier, une chambre 621 bis à la place de la 622 ? Ça, c'est une intrigue. Et le début d'un roman. Scarlett afficha un large sourire. Elle s'était prise au jeu. Attention, nuança-t-elle aussitôt. Il pourrait y avoir une explication rationnelle. Il arrive que les hôtels renoncent à la chambre 13 par égard pour les clients superstitieux. S'il y a une explication rationnelle immédiate, dis-je, alors l'intrigue s'éteint et il n'y a pas de roman. C'est là où le romancier entre en action. Pour qu'un roman existe, il doit repousser un peu les murs de la rationalité, se défaire de la réalité et surtout créer un enjeu là où il n'y en a pas. Comment le feriez-vous dans le cas de cette chambre d'hôtel ? Me demanda Scarlett qui n'était pas sûre de tout comprendre. Dans le roman, l'écrivain à la recherche d'une explication va interroger le concierge de l'hôtel. Allons-y. Suggéra-t-elle. Maintenant ? Bien sûr que oui, maintenant.
La chambre 621 bis est emblématique de l'hôtel, nous expliqua le concierge, amusé de nous voir débarquer à une heure pareille pour lui poser cette question. Au moment de la construction de l'hôtel, la plaque 621 a été apposée sur la porte de deux chambres par erreur. Il aurait suffi de remplacer l'une des deux 621 par un 622, et cela aurait tout réglé. Mais le propriétaire de l'époque, M. Edmond Rose, qui était un homme d'affaires avisé, préféra ajouter la mention « bis » sous le 621, et la chambre devint la 621 bis. Cela ne manqua pas d'attiser la curiosité des clients qui réclamèrent cette chambre plutôt qu'une autre, convaincus qu'elle avait quelque chose de spécial. L'astuce fonctionne toujours aujourd'hui, puisque vous êtes là, en pleine nuit, à m'interroger sur cette fameuse chambre.
De retour au sixième étage, Scarlett me dit « Donc, cette chambre 621 bis n'est qu'une erreur de construction. » « Pas pour le romancier, lui rappelai-je, sinon l'histoire s'arrête. » Dans le roman, le concierge ment pour relancer l'intrigue. Pourquoi le concierge ment-il ? Quelle est la vérité sur cette mystérieuse chambre 621 bis ? Que s'y est-il passé pour que les gens de l'hôtel le dissimulent ? Voilà comment on peut construire une idée à partir d'une simple situation. « Et maintenant ?» demanda Scarlett. « Et maintenant, plaisantai-je, à vous de creuser. Moi, je vais me coucher. » J'étais loin de me douter que je venais de gâcher mes vacances. Le lendemain matin à 9h, je fus tiré de mon sommeil par des coups contre la porte de ma chambre. J'allais ouvrir. C'était Scarlett. Elle s'étonna de mon air endormi. « Vous dormiez, l'écrivain ?»« Oui, je suis en vacances. Vous savez, ces moments de repos pendant lesquels on vous laisse tranquille. »« Eh bien, vos vacances sont terminées, » m'annonça-t-elle en entrant dans ma suite, donnant un gros livre sous le bras. « Car j'ai la réponse à votre prétendue intrigue. Pourquoi y a-t-il, au palace de Verbier, une chambre 621 bis à la place de la 622 ?»« Parce qu'il y a eu un meurtre. La fiction dépasse la réalité. » »« Quoi ? Comment savez-vous tout ça ?»« Je suis allé de bonne heure dans l'un des cafés du centre du village pour y interroger les habitants. Plusieurs d'entre eux m'en ont parlé. Je peux avoir un café, s'il vous plaît ?»« Je vous demande pardon. Café, please. À côté du minibar, il y a une machine à capsule. Vous mettez la capsule dedans, vous appuyez sur le bouton et le café coule dans la tasse. Vous allez voir, c'est magique. » J'étais complètement séduit par Scarlett. Je m'exécutais aussitôt et préparais deux expressos. Rien n'indique un lien entre ce meurtre et cette étrangeté de chambre 621 bis, lui fis-je remarquer en lui apportant une tasse. Attendez de voir ce que j'ai trouvé, me dit-elle en ouvrant le livre qu'elle avait apporté. Je m'installai à côté d'elle. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je. Un livre sur l'histoire du palace, m'expliqua-t-elle en faisant défiler les pages. Trouvé à la librairie du village. Elle s'arrêta sur une photo d'un plan architectural de l'hôtel et posa son doigt dessus. « C'est le 6e étage, » dit-elle. « Coup de chance, quand même. Vous voyez, c'est le couloir, ici. Et là, on voit pour chaque suite son numéro. Elles se suivent logiquement. Regardez. Et la 622 est bien là, entre la 621 et la 623. » Je constatais stupéfait que Scarlett disait vrai. « À quoi vous pensez ?» lui demandai-je, certain qu'elle avait une idée derrière la tête. « Que le meurtre a eu lieu dans la chambre 622, et que la direction de l'hôtel a voulu en effacer le souvenir. Ce n'est qu'une hypothèse. Que nous allons vérifier. Vous avez une voiture ?
Oui, pourquoi ?
Alors en route, l'écrivain. Comment ça, en route ? Où voulez-vous aller maintenant ? Aux archives du Nouvelliste, le grand quotidien de la région. C'est dimanche, fis-je remarquer. J'ai appelé la rédaction. Ils sont ouverts le dimanche. Scarlett me plaisait. C'est la raison pour laquelle je l'accompagnais à Sion, à environ une heure de route, où se trouvaient les locaux du Nouvelliste. Derrière le comptoir d'accueil, une réceptionniste nous informa que l'accès aux archives était réservé aux abonnés. « Il va falloir s'abonner », annonça Scarlett en me tapant du coude.
« Hé, pourquoi moi ? » protestai-je.
« Allez, l'écrivain, on n'a pas le temps d'ergoter. Abonnez-vous, s'il vous plaît. » J'obtempérai et sortis ma carte de crédit, ce qui nous octroya le droit d'accéder à la salle des archives. J'avais imaginé un sous-sol poussiéreux dans lequel s'entassaient des milliers de vieux journaux. Il s'agissait en réalité d'une petite pièce équipée de 4 ordinateurs. Tout avait été informatisé, ce qui nous simplifia la vie. Installé derrière un écran, il ne fallut que quelques mots-clés à Scarlett pour trouver une série d'articles. Elle cliqua sur le premier et poussa un cri de victoire. L'affaire faisait la une du journal. On y voyait une photo du palace de Verbier devant lequel étaient garées des voitures de police et le titre suivant « Meurtre au palace ». Hier, dimanche 16 décembre, un homme a été retrouvé assassiné dans la chambre 622 du palace de Verbier. C'est un employé de l'hôtel qui a découvert le corps de la victime au moment de lui apporter son petit déjeuner.